Eh ben, je suis très, très, très contente de me tenir là devant vous. Et on va commencer par prier. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et ce matin, je te demande vraiment de disposer nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir tes révélations. Merci parce que chaque jour, tu nous donnes des fraîches révélations. Et ce matin, Seigneur, donne-nous une fraîche révélation de ton amour, de qui tu es. Et que nos cœurs soient comme une terre meuble qui a soif, où ta parole puisse prendre racine et porter du fruit. Amen. Amen. Voilà, donc je suis vraiment hyper, hyper honorée de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc ça fera un an en avril que je n'ai pas prêché. Et c'est bien d'avoir des temps d'arrêt comme ça. Enfin, d'arrêt, entre guillemets, parce que la vie est quand même très, très intense, je ne vous le cache pas. Mais ça m'a fait du bien, en tout cas, de prendre cette saison, de vraiment me laisser prendre du temps pour me laisser remplir par Dieu. Et vous savez, dans ces derniers mois, donc j'avais lâché un peu toutes mes responsabilités à l'église. Et parfois, c'est aussi des temps où Dieu va venir nous travailler sur notre identité. Parce que quand on n'est plus dans l'activité, dans « je sers Dieu, je fais quelque chose pour Dieu », eh ben, ça révèle un peu où on en est au niveau de notre identité. Est-ce que mon identité, elle vient de ce que je fais ? Et quand je ne fais plus rien, qui je suis ? Qu'est-ce qui reste ? Et l'identité, c'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur depuis des années, depuis que je lui ai donné ma vie. Et c'est rigolo parce qu'alors que je préparais ce message, je reprenais des notes d'anciens messages que j'ai pu prêcher à l'église ou dans d'autres contextes. Et je disais à Mathieu, mais en fait, je prêche toujours la même chose. J'espère que les gens ne vont pas se lasser. Mais je reviens toujours à ce message de qui on est en Dieu, laisser Dieu nous transformer. Et en même temps, je sentais Dieu me dire, mais non, c'est ça que je t'appelle à amener, c'est ça que j'ai envie que mon peuple, mes enfants reçoivent ce matin, mais aussi pour leur vie. Et donc voilà, je vous partage juste mon cœur très simplement. Et donc ce message, il s'inscrit dans la série, vous savez qu'on est dans une série de messages qui s'appelle « Disciples en 3D ». Et donc c'est dans cette série-là que ce message s'inscrit. Et le but ce matin, c'est être transformé pour transformer le monde. Alors j'ai appelé mon message « Renouveler ses pensées », parce que c'est de ça qu'on va parler. Mais le but, si vous devez vous souvenir de quelque chose, pourquoi je vais vous donner ce message, c'est vraiment pour que vous puissiez être transformé, pour à votre tour transformer le monde autour de vous. Parce qu'il y a un principe, spirituel et naturel, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et si vous voulez porter du fruit, avoir un impact dans votre vie, amener l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas donner ça si vous-même, vous ne l'avez pas reçu. Et comment on est transformé ? Ce matin, j'ai écouté des messages dernièrement justement sur l'impact de nos pensées et l'importance d'être renouvelé. Comment on est transformé ? Alors, je vais m'appuyer sur plusieurs versets, mais il y a ce verset dont on parle souvent dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi ? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce message, il y a une vérité incroyable. Tu peux revenir avant. soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on va s'arrêter là-dessus ce matin, sur le fait d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et vous savez, c'est important de comprendre que quand on devient chrétien, la croix nous offre le salut et on change de statut. On passe du statut de pécheur, nous étions pécheurs, et on devient des saints. Et ça, c'est une vérité. C'est important que cette vérité, elle soit là, déjà de l'entendre, ça fait du bien, mais qu'elle descende là, dans nos cœurs. On était pécheurs, on reçoit Jésus, on devient saint. Notre identité change. Et souvent, on a du mal avec cette réalité parce qu'on, bien sûr, tous, on est imparfaits. On n'est pas encore arrivé à la perfection et comme Jésus. Et pourtant, on est appelé saint. Et si vous avez des doutes là-dessus, je vous encourage, lisez Romains, Romains 7, Romains 8. Je ne sais plus combien de fois il répète ça. Nous étions pécheurs, nous sommes saints, nous sommes saints, nous sommes saints. Et juste pour commencer, j'ai envie de vous encourager, tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, regardez-le et dites-lui, je suis saint. Je suis saint. Si j'ai reçu Jésus, je suis saint. Parfois, on a besoin de se le rappeler. Mais ce n'est pas juste que les autres nous le disent, on a besoin de se le dire à soi-même. Et on est justifié, on a été justifié une fois pour toutes. La croix, elle nous justifie. Okay, on nous donne une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est 2 Corinthiens 5, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'était le... Quand j'ai reçu ce verset, j'avais 18 ans, ça a changé ma vie. Waouh, les choses anciennes sont passées, c'est fini, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir de ça, de ce moment-là dans notre vie, on est appelé à marcher en nouveauté de vie. Hein, Romains 6, verset 4. Et ça, c'est la sanctification. Et comme ce verset le dit, marcher en nouveauté de vie, la sanctification, c'est un chemin. C'est un chemin. Et il y a ce verset dans Philippiens qui dit « Travaillez à votre salut ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je dois travailler, faire beaucoup d'efforts pour être sauvée ? Non. Moi, je reçois. C'est Jésus qui a payé. Mais après, je fais fructifier mon salut. Ça, c'est la sanctification. Et vous savez, on peut être chrétien toute sa vie, mais on peut ne jamais devenir disciple. Et il y a une différence entre être chrétien et devenir disciple. C'est pour ça qu'on a appelé cette série « disciple ». Et vous savez, dans la Bible, je ne suis même pas sûre qu'il y ait le mot « chrétien ». Je dis ça, si, il y a le mot « chrétien » quand même. Mais Jésus, il a dit, il nous a appelés à faire des nations des disciples. Disciple, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui suit Jésus. Voilà, comme cette petite fille qui marche dans les pas et qui suit, hein, qui suit. Et quand on suit Jésus, il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses qu'on va lâcher. Il va y avoir des changements dans nos choix. Il va y avoir des choses auxquelles on va devoir renoncer. Hein, mais pas par nos propres forces. On n'est pas tout seul. On est en communion avec Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. Et c'est ses fruits qui portent en nous, qui nous aident à faire ses choix, à avancer. Voilà. Et même dans ce que je vais vous partager ce matin, et je veux vraiment vous encourager, peut-être parfois il y a des choses, ça va vous titiller un peu, mais vous pouvez très bien repartir ce matin comme vous êtes venu. Et je vous encourage vraiment à recevoir, à laisser le Saint-Esprit peut-être vous déranger dans vos habitudes, dans ce que vous avez l'habitude de croire. Voilà. Parce que Jésus, Dieu, c'est un gentleman. Il arrive, il offre, il est là, il se tient à la porte, il frappe. Ouvrez, ouvrez-lui la porte. Waouh. Et du coup, pourquoi les pensées ? Alors, le verset « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». L'intelligence, c'est nos pensées. C'est tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... Voilà. Et j'ai lu une étude qui m'a interpellée. Déjà, la personne avec qui on a le plus de conversations, c'est soi-même. C'est avec vous que vous parlez, vous entretenez le plus. Alors, peut-être pas de façon... Il y en a qui parlent, on voit des gens qui parlent tout seuls. Moi, ça m'arrive en voiture, sous la douche, ou parfois, je suis tellement dans mes pensées, mais on n'est pas obligé. Mais c'est avec nous qu'on a le plus de dialogue intérieur. Et j'ai lu cette étude qui dit que voilà, on a environ 60 000 pensées par jour. Donc, ça fait 2500 par heure et 41 pensées par minute. Et sur ces 60 000 pensées, il y en a 80% qui sont négatives. C'est énorme. Alors, il y a beaucoup de pensées, j'ai lu, ça va être de la répétition, c'est des choses qui vont revenir. Hein. Mais 80% qui vont être négatives, ça va être des pensées, on va se déprécier, on va se dévaloriser, on va dire, ah, t'as encore fait ça, ah, je suis pas bien, ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. 80% de nos pensées sont négatives. Et quelles conséquences ça peut avoir dans ma vie? Quels fruits ça va porter? Toutes ces pensées qui me traversent, qui sont là, qui me nourrissent. Donc oui, ce que je pense, ça compte. Et ça vaut le coup de s'y pencher. Vous êtes d'accord? Et ce que je veux vous partager ce matin, ce n'est pas une théologie du positivisme. Ce n'est pas dire, oui, on est chrétien, il faut que tout aille bien, oui, tout va bien, c'est pas ça. Ce n'est pas, il faut que j'entretienne absolument des pensées positives tout le temps, donc je vais aller, comme ça j'irai bien. Ou alors ce n'est pas un masque, une façade que parfois, en tant que chrétien, on porte si facilement. Ça va, ouais, ça va. Hein? On est souvent dérouté si les gens nous disent non, ça ne va pas. Ah, mince. on le répète assez souvent, c'est hyper important, on a à cœur de ça, de pouvoir cultiver l'authenticité, de pouvoir être vrai, pas porter un masque. Ça ne veut pas dire qu'on raconte notre vie à tout le monde, mais on est vrai les uns avec les autres, on peut être vulnérable, on se rend redevable les uns des autres. Et je repensais quand j'écrivais ça, un exemple, on avait un ami en Angleterre qui était d'un pays d'Afrique francophone. Et souvent, il venait à notre groupe de maison et on lui disait « Alors, comment tu vas? Ça va ?» Et tout de suite, il nous répondit « Mais oui, ça va. Comment ça ne pourrait pas aller? Puisque Dieu est sur son trône !» Et presque, on était... Quand il nous répondait ça, ça nous... Waouh, ok, je t'ai juste demandé si t'allais bien. Et toujours, il nous répondait ça. Et il était chouette comme tout, mais voilà, on a droit aussi de ne pas aller bien. On passe tous par des moments... difficile. Il y a des épreuves qui nous arrivent, il y a aussi des jours où on se lève, on est de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de la vie. Mais est-ce que c'est ça qui va diriger ma journée? Est-ce que c'est ça qui va diriger ma vie aussi? Est-ce que une chose terrible est arrivée dans ma vie? Est-ce que ça va déterminer toute ma vie ou pas? Qu'est-ce que j'entretiens? Attention que ça ne devienne pas un style de vie. Et la racine pour traiter tout ça, c'est le renouvellement des pensées. Et psaume 87, verset 7 nous dit « Toutes mes sources sont en toi ». C'est Sam qui l'a partagé ce matin pendant la louange. « Toutes mes sources sont en toi ». À quelle source on va puiser? Et à quelle source je vais puiser? Est-ce que c'est moi qui contrôle mes pensées? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est mes pensées qui me contrôlent. Et j'avais cet exemple, du coup, c'est pas grave, j'avais une petite vidéo, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous avez, je pense qu'on a tous vu ça. Alors moi, j'ai pas de chien, je suis pas particulièrement fan des chiens, mais on voit parfois des gens qui promènent leur chien, et en fait, c'est plus leur chien qui les promène. Et on les voit comme ça. Ils sont complètement tirés par leur chien sur leur laisse. Hein. On a tous vu ça une fois ou une autre, surtout avec des jeunes chiens, je pense. Et parfois, les pensées, c'est un peu ça dans nos vies. C'est pas nous qui allons hop. Maîtriser ce qu'on pense, c'est nos pensées qui nous tirent, qui nous amènent là où elles veulent. Et c'est pour ça qui nous ballottent comme ça au gré des vents. Et souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on commence à avoir des pensées comme ça, eh ben, on va les nourrir. Alors soit, par exemple, on va dire « Ah, ce matin, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Ah, mais oui, mais en fait, hier aussi, j'étais déjà pas bien. Allez, je lui donne un petit os à ronger. Ouais, parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines qu'en fait, je ne suis vraiment pas bien, je commence vraiment à ne pas être bien. » Et puis, aussi, on peut avoir le réflexe, moi parfois, avec les filles, oh là là, c'est intense, je les mets à la sieste et vite, je vais aller chercher des petits bonbons dans la boîte à bonbons. Ah, juste une petite dose de sucre, ça va me faire du bien, ça va me calmer. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais parfois, c'est pour vous montrer comment on peut aller se nourrir. Vite, j'ai besoin de nourrir ces pensées-là, de leur donner quelque chose pour qu'elles me laissent un peu tranquille parce que c'est dur. Et là, je parle des bonbons, mais ça peut aussi... Il y en a, ça va être des addictions. Il y en a, ça va être vite. J'ai besoin d'aller prendre une cigarette. Vite, j'ai besoin de boire un verre pour oublier ce qui se passe. Vite, j'ai besoin de me changer la tête, de regarder un film pour penser à autre chose. Hein, combien ? Moi, je le fais. Enfin, je le fais trop souvent. On le fait tous. Et là, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais entretenir ces pensées? Est-ce que je vais essayer de les distraire pour momentanément en être débarrassée? Ou alors je peux aller voir Dieu et lui dire « Dieu, toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Moi, je me sens comme ça. Moi, j'ai ces pensées-là. Et toi? Et toi, tu penses quoi ?» Et il y a quelques semaines, comme ça peut nous tous nous arriver, je passais une journée, j'étais un peu en mode je subis ma vie. y avait tout qui me déprimait. J'avais de la paperasse à faire, j'avais mon panier à linge sale qui débordait, les filles se disputaient, j'étais en mode je me plains, puis je voyais tout de négatif. J'étais fatiguée, puis Mathieu me dit va faire la sieste, alors je vais dormir un peu. Puis après, je me réveille, puis j'étais un peu moins fatiguée, mais j'allais toujours pas mieux. Puis au bout d'un moment, je me suis dit en fait, demain, ça ira pas mieux. Tant que tu ne changes pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, demain, tu vas te lever, ça va être exactement la même chose. En fait, j'ai réalisé que le problème, c'était pas mes circonstances qui étaient c'était pas grave en soi, mais c'était mon cœur. Où était mon cœur dans ces circonstances-là? Est-ce que je laissais les circonstances, qui n'étaient pas très marrantes, comme on a tous des journées pas très marrantes, qui allaient dicter ma vie, mon humeur, comment je me sentais? Non, c'est pas ça. C'était ce qui était à l'intérieur de moi dont il fallait que je m'occupe. Et c'est important de comprendre qu'on n'est pas censé être soumis à nos pensées. Mais nos pensées, c'est nos pensées qui doivent nous être soumises. Il y a ce verset qui dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Et vous savez, j'aurai peut-être l'occasion de vous partager ça dans un futur message. On a eu notre quatrième fille en septembre. Et en me préparant à l'accouchement, j'avais vraiment beaucoup de peur qui venait par rapport à comment ça allait se passer, par rapport à la gestion de la douleur. Et avec Mathieu, on a vraiment expérimenté dans cette période-là la puissance de proclamer la parole et ne pas se laisser envahir par ses peurs et laisser ses peurs envahir mes pensées, mais aussi mon cœur, mais à revenir à la source et redéclarer « Non, Seigneur, toi, tu dis l'amour parfait bannit la crainte. » Et le proclamer jusqu'à ce que ça devienne une réalité. C'est comme appeler les réalités du ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est comme les réalités du ciel qu'on appelle à se réaliser sur la terre. C'est notre Père, que ton règne vienne. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, avec Mathieu, on avait écrit plein de versets comme ça sur la peur, sur le fait que l'amour parfait bannissait la peur, sur Dieu qui était avec nous le jour, la nuit, aucun mal ne t'atteindra, sur les projets de paix et de bonheur, plein de versets comme ça qui nous parlaient et qui déclaraient la parole, la vérité, ce que Dieu disait. On avait tapissé notre chambre de ces versets, il y en avait peut-être 20, une vingtaine, je dirais, peut-être 30, et il y en avait partout comme ça. Dès que j'allais dans ma chambre, parce que je pensais que j'allais accoucher dans ma chambre, parce que j'ai accouché à la maison, mais j'ai pas accouché dans ma chambre. Mais comme ça, hop, j'étais entourée de ça, et dès que je levais les yeux, j'avais un verset que je pouvais lire, que je pouvais proclamer, je pouvais déclarer. Et dès que la peur venait, hop, je laissais pas la peur m'envahir, je déclarais la parole de Dieu, je déclarais. Et c'est pas magique ce que je dis, mais c'est une réalité, et c'est une arme que Dieu nous donne. Et c'est important de prendre conscience de ça en tant que chrétien, parce que combien de fois, c'est pas ça qui va gouverner nos vies, c'est nos pensées, c'est nos émotions, c'est comment je me sens. Et on est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je ne peux pas maîtriser ce qui m'arrive. Je ne peux pas maîtriser les épreuves dans ma vie, tout ce qui est extérieur à moi. Mais je peux être responsable de comment je vais réagir, de comment je vais répondre à ces situations. Aussi difficiles et douloureuses les circonstances puissent être, moi, ma responsabilité, c'est « Ok, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et une des clés que je vais vous donner, c'est regarder à Jésus. Et il y a ce verset dans 2 Corinthiens qui dit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Je vais m'arrêter là, je lirai la suite du verset après. Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Quand il n'y a personne pour me décrire, pour me dire qui je suis, pour me définir, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je pensais? Quelle pensée je nourris alors que je regarde mon reflet? Et j'ai vraiment senti le Seigneur m'interpeller par rapport à ce verset qui revenait ces dernières semaines, et notamment, on prend des temps, depuis le début de l'année, on a pris des bonnes résolutions, et toutes les semaines, on se voit avec Élodie pour prier. Et la semaine dernière, Mathieu, on avait reçu un cadeau, un miroir pour Noël, et Mathieu a posé notre miroir dans notre entrée. J'étais trop contente, on a un beau miroir. Et puis, deux jours après, je suis allée chez Elodie Et là, je vois qu'eux aussi, ils avaient posé un miroir dans leur entrée. Et j'ai partagé quelques jours plus tard, j'ai senti le Seigneur qui utilisait cette image en me disant, bah, regarde, je trouvais ça rigolo parce qu'eux, ils avaient ce miroir dans un carton depuis 6 mois. Voilà. Et nous, ça faisait 1 mois qu'on l'avait. On a moins attendu pour le mettre. Mais on l'a mis à quelques jours d'écart sans se le dire. Et je trouvais ça fou. J'ai dit à Elodie, bah, je sens que c'est le Seigneur qui m'interpelle pour nous dire, bah, soyons un miroir l'une pour l'autre. Reflétons autant pour nous rappeler qui on est vraiment hein, quand on se sent mal, mais aussi pour parfois se challenger, se dire, hey, attends, là, c'est pas toi. Quand tu réagis comme ça, quand tu penses comme ça, c'est pas toi, c'est pas qui tu es. Donc soyons des miroirs les uns pour les autres, et quand nous, on est seuls face à notre miroir, qui on voit ? Et c'est important de réaliser que à chaque fois que je vais porter un regard négatif sur moi, et ben en fait c'est Jésus que je vais diminuer. Pourquoi ? Parce que je le reflète. Genèse 1, verset 27-28, il nous a créés à son image. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Que c'était très bon. Dieu, il n'a pas regretté. Il n'a pas dit, ah mince, j'ai fait une boulette quand j'ai fait ça. Non, il a dit que c'était très bon. On est créé à son image. Donc à chaque fois que je vais réduire Dieu à cause de mes épreuves, à cause de mes circonstances, dire, ah Dieu, en fait, t'es pas bon. Ah Dieu, t'es pas comme ça. En fait, c'est moi que je diminue. Et inversement, à chaque fois que je porte un regard négatif sur moi, en fait, c'est Dieu que je réduis. Et c'est important de ne pas être dans la fausse humilité, de dire « Ah non, moi, je suis rien, je ne vaux rien. » On n'honore pas le Créateur en diminuant sa créature. Réfléchissez à ça quand il y a ce principe-là. Si vous dites à un peintre « Ah, ta peinture, elle est vraiment moche. Est-ce que ça va l'honorer ?» Est-ce que ça va ajouter de la valeur au peintre de lui dire que ce qu'il a créé, finalement, ben, ça n'a pas de valeur, que c'est pas beau, que c'est pas assez bien, que c'est pas assez comme ci ou comme ça ? Non. Et quand on regarde, quand on contemple la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là, c'est pas nos propres forces, hein. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Waouh ! Il y a des mystères là, je sais pas si vous sentez des mystères qui nous échappent, mais alors je comprends pas. Je dois regarder dans le miroir, mais en même temps c'est pas moi qui fais le job, mais c'est pour ça que la clé, regardez à Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Et lui, il nous transforme à son image. Waouh. 1 Jean 3, verset 2. Quand le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Alors que tu regardes à Jésus, tu deviens semblable à lui. Tu es transformé à son image. Ça, c'est un glorieux plan. C'est pas tu deviens moins que rien, non. Tu es transformé à son image. Regarder à Jésus, c'est comme regarder dans un miroir. Et quand le Père me regarde, quand le Père te regarde, il voit Jésus. Nous, quand on se regarde, honnêtement, hein, moi, je vois tout ce que j'ai raté. Ah, je me suis encore mis en colère. Ah, j'ai encore fait ci. Ah, j'ai encore parlé dans le dos d'un tel. Mais Dieu, il ne voit pas ça. Dieu, il voit Jésus quand il te regarde. Et si je ne me vois pas moi, c'est que je me fabrique un Dieu à mon image. Et mon Dieu, c'est moi. Si ce n'est pas Dieu qui te modèle, il y a forcément quelqu'un d'autre qui te modèle. Est-ce que c'est ce que les autres pensent ? Est-ce que c'est ce à quoi tu aimerais ressembler ? Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a deux plannings pour tes pensées. Il y a deux agendas. Et je vais vous donner une autre clé. Il y a ce verset dans Josué 1, verset 8, où en fait c'est quand Josué prend la relève de Moïse pour entrer dans le pays promis. Dieu lui donne des instructions, et c'est le premier chapitre de Josué, et dans ce chapitre-là, il répète au moins 4 fois, « Prends courage, tiens bon, ne t'effraie pas. » Il le répète avant, après, « Prends courage, tiens bon, ne t'effraie pas. » Prends courage, tiens bon, ne t'effraie pas. C'est un peu comme nous en tant que parents dans l'éducation, on doit répéter les choses, répéter. Bah, Dieu fait pareil avec nous. Parce qu'il sait, il sait que les peurs elles vont venir, il sait que les épreuves elles vont être là. Prends courage, tiens bon, ne t'effraie pas. Donc, Josué 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. » Et je dégage trois choses dans ce verset. Proclamer, répéter sans cesse, c'est proclamer, déclarer la parole de Dieu. Et vous savez, pendant les vacances de Noël, on a vécu des temps un peu difficiles avec Mathieu dans nos familles respectives. Et il y avait des fois où on se sentait hyper abattus, mais tous les deux. Et c'était difficile à ce moment-là. Et un soir, je me souviens, j'ai dit à Matt, je vais prier pour toi. Mais je ne trouvais même plus les mots. Je ne savais même plus quoi prier à Dieu. Et le lendemain matin, on s'est réveillé, puis on a ouvert la Bible. Et là, il y avait un psaume. C'était un psaume qui correspondait exactement à ce qu'on vivait. Et on a commencé à le lire et à le déclarer. Et je sentais Dieu m'encourager à dire, mais quand tu n'as plus de mots, quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu ne sais plus quoi demander à Dieu, déclare la parole. Déclare la parole, jusqu'à ce qu'elle prenne vie, jusqu'à ce que le ciel envahisse la terre. T'es sûr de ne pas te tromper. Deuxièmement, méditer. Et ce n'est pas la méditation comme la société nous montre, la méditation orientale, où on fait le vide, où on est zen. Non, c'est pas ça. Mais la méditation, c'est biblique. Médite la parole de Dieu. Et le verbe qui est utilisé dans ce verset-là, c'est le même verbe qui est utilisé dans un autre verset de la Bible, Isaïe 31, verset 4. Et ce verset nous dit « Le lion qui défend sa proie en rugissant ». En fait, le verbe « méditer » dans Josué 1, c'est le même verbe en hébreu « défendre sa proie en rugissant ». C'est incroyable quand même. Donc la méditation, ce n'est pas quelque chose de passif, de « je me vide l'esprit ». Non, c'est comme défendre sa proie en rugissant, c'est être proactif, c'est remplir mes pensées de ce que Dieu pense. Qu'est-ce qu'il pense Dieu ? Il m'a créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça, c'est un exemple, Éphésiens 2, verset 8-9. Donc, quand vous méditez la parole de Dieu, remplissez-vous des pensées de Dieu, remplissez-vous de sa parole. Et troisièmement, appliquez. Agir, être dans le concret. Et il y a le Jacques, l'épître de Jacques, il nous encourage beaucoup. Il parle beaucoup de la foi sans les œuvres qui est morte. Morte, c'est un terme fort, ça veut dire quoi ? Elle ne produit pas de fruits. Elle est stérile, la foi sans les œuvres. Jacques 1, versets 22 à 24. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Agis selon qui tu es. Agis selon ton identité. Et on parle souvent de cercle vicieux, des choses qui s'enchaînent comme ça, sans fin. Mais moi, je vous propose de créer un écosystème, un cercle vertueux dans vos pensées. Je me remplis des pensées de Dieu et donc je vais agir. Et alors que j'agis et que je mets en pratique la vérité, la parole de Dieu, ça va nourrir mes pensées qui vont me pousser à nouveau à agir et à mettre en pratique sa parole. Et ça, c'est un écosystème vertueux. C'est quelque chose qui est bon pour nous. Et parce que c'est important de réaliser qu'on va toujours reproduire, ça on le dit souvent, on va toujours reproduire autour de nous, dans nos relations, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a dans notre cœur, ça va ressortir. Hein, c'est comme ce verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est pareil dans nos actions. On va toujours reproduire autour de nous ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ce que tu penses, ça compte. Et Jacques nous invite à être acteurs et à mettre en pratique sa parole. Et ça, ça va venir nourrir mon identité. Et le but, c'est pas de travailler, comme je disais au début, pour obtenir mon salut, mais c'est de faire fructifier parce que je suis sauvée. C'est parce que je suis sauvée que je fais ça. C'est pas pour être sauvée. Vous savez, il y a plein, dans d'autres religions, il faut faire plein de bonnes choses pour peut-être être sauvée. Non. Dieu, il renverse ça avec Jésus complètement. Non, il nous offre le salut. On rentre, on est déjà sauvés. C'est incroyable, quelle grâce. C'est énorme. Et oui, comme je disais tout à l'heure, oui, on traverse tous des épreuves. Il y en a qui sont plus exposés que d'autres. Franchement, c'est vrai. Il y a des gens qui sont amenés, enfin, comme voilà, le couple dont on vous parlait hier, quelle tragédie. Ils laissent deux petits-enfants. Cette maman qui est partie rejoindre Jésus, elle laisse sur terre un mari qui est seul, deux enfants de 7 et 5 ans. Waouh, quelle épreuve. Mais Dieu nous donne des ressources pour ne pas être victime. Comme je disais, je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive. Je ne peux pas maîtriser ça. Mais je suis responsable de comment je vais réagir. Et quand ça arrive, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais penser de Dieu pendant et surtout après. Est-ce que c'est ce que j'ai vécu ? Est-ce que c'est mes pensées qui vont définir, qui vont redéfinir qui est Dieu ? Et c'est dur, hein ? Et vous savez, je me souviens d'une amie qui nous disait ça, qui avait lu cette citation qui m'avait marquée. La terre, c'est le seul endroit où on peut louer Dieu dans l'épreuve. Au ciel, on n'aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de pleurs. Et sur terre, il y a ça encore. Et bien, c'est le moment de louer Dieu malgré tout ça. Et je me prêche à moi-même quand je dis ça. Mais l'épreuve, en fait, ça va révéler ce qu'il y a au fond de moi. La façon dont je réagis aux choses, ça va révéler la personne que je crois être. C'est pour ça que c'est aussi dans les moments plus calmes, quand personne ne me regarde, que c'est important de voir, ok, faire un état des lieux. C'est quoi mes pensées? C'est quoi qui me nourrit? Plus je regarde à Jésus, plus je vais me remplir de ce qu'il pense et ce qu'il dit de moi. Et plus sa vie va se refléter, va couler, parce que ça porte du fruit tout ça, c'est pas mort. Colossiens 3, verset 10. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. C'est un fait, c'est accompli. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. J'ai écouté ce chant cette semaine qui m'a porté, et à un moment, il y avait un chant prophétique, et il disait... Tu m'as arraché, tu m'as sorti du tombeau et je n'y retournerai plus jamais. Et ça, c'est une réalité, c'est la réalité du salut. Mais combien c'est une réalité tellement incroyable pour nos vies. Le tombeau, c'est quoi? C'est mes anciennes façons de faire, c'est mes anciennes façons de penser, c'est tout ce qui essayait de m'arracher, qui produisait la mort en moi. Jésus nous a arraché, il nous a sorti de ce tombeau-là. Et moi, je ne veux jamais y retourner. Et je pleurais hier quand je préparais ce message, quand j'entendais ce chant, je disais, mais oui Seigneur, je ne veux jamais y retourner. Je ne veux jamais retourner dans cette ancienne façon de faire, dans ces péchés qui m'emprisonnaient. Je ne veux pas retourner, je ne veux pas redevenir prisonnière. Jésus nous a libérés, il nous a libérés, il vous a libérés. La parole de Dieu est la vérité et elle peut rester de la pure théorie. On peut très bien lire la parole et comme on lit un livre, on en parlait hier encore avec des amis. On peut très bien lire sa Bible tous les jours, mais il n'y a pas de fruit, on ne rencontre pas Jésus. Si on ne la met pas en pratique, et on a besoin d'être intentionnel dans notre vie de disciple, d'être acteur. Le salut nous est donné par grâce, on ne le méritait pas. On ne peut pas le gagner, on ne peut rien faire pour le gagner. Mais devenir disciple, ça requiert qu'on se mette en marche. On est intentionnel pour être transformé à son image et refléter sa gloire. Et là, là, on va transformer le monde autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour chacun d'entre nous. Et ce matin, alors que si, je sais, je ne vais pas dire si tu as senti que Dieu te parlait, parce que je sais que Dieu a parlé à chacun d'entre nous. Et je veux vraiment vous encourager. Peut-être, ouais, merci Sam, on va prendre un temps. Fermez vos yeux et peut-être faire un petit bilan. Bah ouais, qu'est-ce qui nourrit mes pensées ? Ces dernières semaines, ces derniers jours, quelles pensées j'ai entretenues ? Est-ce que c'est des pensées de mort ? Est-ce que c'est des choses comme si des anciennes habitudes qui sont encore présentes dans ma vie ? Parce que ce matin, le Seigneur, il te dit, coupe, il veut couper ses chaînes. Il veut couper ses chaînes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui. Dieu, il est là et il tape à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu ouvres la porte ? Et je vous invite vraiment à prier avec moi, Seigneur. Merci pour ton salut.